la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
L'exil, ce n'est pas seulement quitter un pays, c'est quitter une vie qui nous a vu grandir, les bras de ceux qu'on aime, l'odeur d'un appartement qu'on ne reverra peut-être jamais. L'exil bouscule l'ordre des choses. Comment rester parent quand on ne peut plus subvenir aux besoins de ses enfants? Quand l'enfant commence à maîtriser une langue qui nous est encore et toujours étrangère? Quand le temps du provisoire semble s'éterniser? Pourtant, même en exil, certaines personnes parviennent à ne pas sombrer, à continuer à créer leur propre histoire, à explorer les possibles pour reconstruire. C'est alors que les livres, le jeu, l'accueil sont des supports sur lesquels s'arrimer pour ne pas s'isoler dans cette étrange dureté d'exilé. Et en ce doux, très doux et dernier lundi de février, c'est moi, Farah, qui ai la joie d'animer cette émission et avec nous ce soir dans la matinale de 19h pour la grande interview Ambre Cerny, directrice de la communication et directrice régionale France et des programmes européens de l'ONG Bibliothèque sans frontières. Et ce sera au micro de Félix. Francesca nous fait un point sur l'actualité du jour avec son flash info et enchaîne ensuite avec notre célèbre interview culture, j'ai nommé le Zoom de la matinale. À son micro, Junior Larroux, membre du bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants et des migrantes. Abel nous partage son regard sur l'actualité à travers sa chronique. Et enfin, Fabien viendra clôturer cette belle matinale de 19h avec son agenda culture.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Rebonsoir, il est 19h03 et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bonsoir Félix, comment ça va ce soir?
Bonsoir Farah, ça va très bien.
Je suis heureuse que tu sois là.
Mais moi aussi.
Alors, la guerre en Ukraine a été déclenchée par l'offensive, par une belle offensive de l'armée russe du 24 février 2022. Elle entre désormais dans sa cinquième année. Et selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, ils sont plus de 6 millions de réfugiés ukrainiens à travers l'Europe. Alors, l'éducation en temps de guerre, ça a toujours été un défi majeur. Face à cette situation, Bibliothèque sans frontières propose plusieurs dispositifs éducatifs pour permettre aux jeunes ukrainiennes et ukrainiens de poursuivre leurs apprentissages et de bénéficier d'un support psychosocial. C'est de ça qu'on va parler avec vous, Ambre Cerny. Bienvenue dans la matinale des 19h.
Merci.
Bonsoir Madame Cerny, merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, au-delà de cette guerre qui dure depuis 4 ans maintenant, cette guerre de territoire, d'artillerie, de drones, de tranchées et d'énormes souffrances, se joue une guerre beaucoup plus discrète mais néanmoins cruciale, celle du droit à l'éducation, puisque c'est le fondement de l'apparence de toute vie normale après 4 ans de guerre, aller à l'école. Et pourtant, Madame Cerny, que signifie concrètement aujourd'hui apprendre sous les bombes lorsque l'on est un enfant ukrainien?
Bien, aujourd'hui, ça veut dire que d'après l'UNICEF, il y a quasiment un enfant sur deux qui ne peut plus aller à l'école normalement. C'est-à-dire qu'ils ont les cours en ligne, comme on l'a connu pendant le Covid, ou alors qui ont partiellement des cours à l'école, voire vraiment pas du tout d'espace, en fait, où aller retrouver leurs camarades et à suivre les cours. Ça veut dire aussi des professeurs qui sont dans des situations où ils manquent de ressources pour faire école. Ça veut dire des parents aussi qui sont désemparés avec leurs enfants à l'école et qui sont en train d'accumuler un retard éducatif important. On parle, si on réfléchit nous tous à l'échelle 4 ans, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une scolarité? C'est énorme, c'est énormément de retard qui peut être pris, ça veut dire hypothéquer potentiellement un avenir aussi pour ses enfants, pour soi-même. Et c'est vraiment pour ça qu'avec Bibliothèque sans frontières, on est présent en Ukraine, parce qu'on est convaincu et on se bat depuis 2007 pour faire de l'accès à la connaissance, donc à l'éducation, à la culture et à l'information, un droit fondamental, en particulier dans les zones de guerre comme c'est le cas en Ukraine.
Et alors justement, les dispositifs dont vous parlez, comment est-ce que ces dispositifs aident-ils les enseignants à s'adapter à ce nouveau contexte de guerre? On pense notamment aux coupures d'électricité, on pense aux alertes aux bombardements qui sont quasiment constantes et quotidiennes. Comment BSF déploie ces dispositifs dont vous allez peut-être nous parler, de ID's Box et ID's Cube, pour s'adapter justement à ce nouveau contexte et à lutter contre la marginalisation sociale et scolaire, parce que souvent ça va de pair, des enfants ukrainiens.
Effectivement, les deux sont très liés. Alors, chez Bibliothèques sans frontières, comme son nom l'indique, on déploie des bibliothèques. Et vous l'avez dit, elles ont deux formes. Ça peut être des Ideas Box. Et donc, ce sont des médiathèques en kit qui permettent de déployer des petits espaces éducatifs en extérieur ou alors dans les abris en sous-sol. Et les Ideas Cube, c'est pareil. C'est une bibliothèque, mais elle est toute petite. Ça rentre sur un petit serveur qui rentre dans la poche. Et ça permet de créer des classes numériques avec une vingtaine de tablettes ou d'ordinateurs connectés simultanément. Et ces deux dispositifs, on les déploie avec des partenaires qui sont sur le terrain. Ce n'est pas Bibliothèques sans frontières qui déploie l'ensemble de ces dispositifs. On travaille main dans la main avec des partenaires locaux qui peuvent être des professeurs, des bibliothécaires, des associations, des centres sociaux, etc. Et en fait, on donne accès donc, au public aux contenus qui sont contenus dans ces bibliothèques, qu'elles soient physiques ou numériques. Et c'est des contenus qu'on a sélectionnés vraiment sur mesure avec ces partenaires, en fonction évidemment de l'âge des enfants auxquels on s'adresse, également de leur langue, des langues qu'ils parlent, mais aussi de leur niveau scolaire et du contexte dans lequel se déploient ces projets. Et donc à travers ces ressources, donc à travers ces bibliothèques, ça permet à la fois de tenir classe quand les professeurs ont besoin d'un espace pour tenir la classe, mais c'est aussi des lieux ludiques, c'est aussi des lieux où on peut faire du bricolage, on peut faire des loisirs créatifs, où on peut faire des ateliers radio, où on peut faire des vidéos, où on peut jouer de la musique, où on peut créer, on peut écrire, on peut faire de l'art. Et on sait à quel point dans nos projets, notamment ceux en Ukraine, l'art et l'art-thérapie d'une certaine manière occupent une place très importante parce qu'on y apprend, mais aussi on s'évade pendant un instant à travers les livres, on rêve, on continue à se projeter dans l'avenir et on crée pour bâtir les fondations de cet avenir meilleur.
Et est-ce que toutes ces actions, elles ciblent également les parents ?
Oui, tout à fait. Chez BSF, globalement, quand on touche des enfants, on pense aussi toujours aux parents. Et les espaces que je vous décris là, ils ont été pensés dans une optique scolaire, mais évidemment, ils touchent l'ensemble de la famille, ils sont très ouverts. On a aussi des dispositifs qui s'adressent plus spécifiquement aux femmes en Ukraine, parce qu'on le sait, les violences sexuelles, notamment sur les femmes, ont été aussi une arme de guerre très utilisée malheureusement par l'armée russe. Et on a développé aussi des bibliothèques, qu'on dirait en très bon français, des safe spaces, qui sont vraiment des espaces où les femmes peuvent venir, confier leurs enfants à des animateurs et à des animatrices qui sont formées, pendant qu'elles allaient au-devant, par exemple, de travailleuses sociales auprès desquelles elles pouvaient rapporter les violences dont elles avaient été victimes, pour bâtir, par exemple, pour commencer à constituer leur dossier et pouvoir accéder aux soins dont elles avaient besoin et à l'accompagnement psychosocial et psychologique dont elles avaient besoin pour se reconstruire. Donc la beauté, on va dire, de la bibliothèque au sens large et des bibliothèques déployées par l'association, c'est qu'elles sont ouvertes à tous et que le contenu peut s'adapter vraiment à n'importe quel public qu'on cherche à servir.
Et un volet très important aussi de l'action de BSF en Ukraine est la formation du personnel éducatif, des enseignants, des médiateurs. Et en quoi cette formation est cruciale pour pérenniser justement l'éducation, l'accès à l'éducation dans ces zones de guerre ?
La première chose peut-être que je voudrais dire, c'est qu'en Ukraine, on a affaire à des partenaires, que ce soit des bibliothécaires ou des professeurs, qui sont déjà des gens qui sont extrêmement formés. Le dispositif, enfin, le socle éducatif et culturel en Ukraine, il est déjà très solide. Et contrairement à d'autres pays où Bibliothèques sans frontières intervient vraiment dans une logique de renforcement des capacités et vraiment aussi de formation des professionnels, ici, on est vraiment face à des professionnels qui sont formés. Ils sont simplement en manque de ressources et sans doute aussi parfois d'énergie pour réinventer en permanence la manière dont ils doivent exercer leur métier. Et donc nous, on vient vraiment avec des outils, on l'a dit, c'est des bibliothèques physiques, des bibliothèques numériques, des fiches d'activité, etc. Et on co-construit vraiment avec eux ce que peuvent être en fait les activités qu'ils vont mettre en place avec leur classe. Chez BSF, c'est très important. On n'arrive pas dans un pays avec des contenus qu'on a fabriqués et qu'on a pensés à Paris, et on n'arrive pas en imposant des livres, mais on est vraiment dans une logique de co-construction, d'analyse vraiment des besoins très spécifiques de chaque contexte, et on forme les partenaires que l'on a identifiés pour eux-mêmes être les détenteurs de ce savoir qu'on a co-construit avec eux, pour qu'ensuite ils puissent le diffuser, et comme ça, par capillarité et par pollinisation, on peut imaginer qu'eux-mêmes ensuite pourront transmettre ces savoirs à d'autres. Donc c'est vraiment la logique de BSF, ce n'est pas d'intervenir soi-même dans chaque contexte, c'est bien d'identifier le bon partenaire et de lui donner les moyens pour partager cette connaissance au plus près du terrain.
identifier les partenaires et lui donner le moyen, c'est quand même des actes qui demandent du temps. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une temporalité de la guerre, une temporalité de l'exil qui n'est pas la temporalité de la co-construction. Comment vous faites pour vous adapter à l'urgence finalement que demandent ces situations de guerre ?
Alors, co-construire, on n'est pas le gouvernement français ni l'administration, ça peut aller vite, ça peut être l'objet d'un atelier d'une journée.
C'est passé.
Co-construire, ça peut être rapide et efficace. Au contraire, je pense même qu'on gagne du temps, en fait, si dès le départ, on s'est bien accordé sur les besoins. Je pense qu'ensuite, les activités sont plus vite adaptées, là où parfois, en fait, il y a un peu un système d'itération qui fait qu'on propose et puis on se rend compte que ça ne correspond pas forcément très bien. Là, on avait été très vite dans une logique de quels sont les besoins, comment on peut y répondre. Et donc je dirais qu'on a été relativement efficace puisque dans les jours qu'ont suivi l'invasion à grande échelle en 2022, on a une première Ideas Box qui était sur le terrain et on a très vite en fait été présent et construit comme ça la réponse vraiment en étant directement sur le terrain. Ça c'est un premier élément important. Et vous me posiez la question de comment on fait pour s'adapter au fait que...
Voilà, à l'urgence, finalement.
La situation aussi évolue. Et les deux dispositifs dont on a parlé, les bibliothèques qu'on met en place, elles sont mobiles, c'est-à-dire que même la médiathèque, en fait, elle est montée sur roue, donc on peut la faire bouger dans l'espace. C'est-à-dire que si la ligne de front se déplace ou le besoin s'est déplacé ou les populations ont changé de village, etc., l'Ideas Box, elle rentre dans un petit camion et on peut l'amener à un autre endroit. Et l'Ideas Cube, c'est vraiment, ça rentre dans une poche. Et les deux dispositifs ne nécessitent pas forcément d'accès à l'électricité. On le sait, c'est très important en Ukraine, puisque... la guerre de l'électricité aussi, d'une certaine manière, fait rage là-bas en Ukraine. Et que ce soit l'Ideas Box ou l'Ideas Cube, elles sont toutes les deux munies de générateurs. Il faut la recharger de temps en temps, mais ensuite, pendant toute une journée, on peut l'utiliser dans un abri pour faire classe. C'est pas un problème. Et je rajoute à ça que les deux dispositifs permettent d'accéder à des contenus en ligne, même quand on n'a plus de connexion Internet. C'est-à-dire que vous n'avez plus le courant, vous n'avez plus de connexion Internet, plus de Wi-Fi. Vous pouvez quand même continuer à faire classe comme vous l'aviez prévu. Vous pouvez quand même continuer à déployer les activités, quoi qu'il en soit.
Et justement, dans le cadre de cette action de BSF qui est vraiment adaptée au terrain ukrainien, on le sait, la guerre en Ukraine, c'est une guerre de territoire, mais c'est aussi une guerre de récit. On l'a vu avec la volonté russe d'annihiler la culture et l'identité même ukrainienne. Comment est-ce que BSF, puisque l'identité d'un pays fait partie intégrante, enfin la littérature d'un pays, pardon, fait partie intégrante de son identité, quelle est la position de BSF face à cette question ?
Alors nous, notre position, c'est toujours celle des partenaires avec lesquels on choisit de travailler et c'est quelque chose qui nous ont fait remonter très vite et très fort. C'est le fait que sur les zones qui étaient occupées par l'armée russe, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est effectivement d'interdire et de détruire les bibliothèques qu'il y avait dans les bibliothèques, mais aussi dans les espaces scolaires. Et une des premières choses que nous ont dit les partenaires, c'est ne les laissez pas détruire en fait la culture et la culture ukrainienne et notamment ne laisse pas détruire les livres. Et donc bien sûr ce qu'on a fait, et je le disais tout à l'heure, chaque contenu il est produit et il est choisi avec les partenaires et on a fait notre possible évidemment pour créer des contenus en ukrainien et pour sourcer des livres aussi en langue ukrainienne. On a aussi reçu il y a 2 ans une représentante des bibliothèques ukrainiennes qui est venue en France et justement avec qui un dialogue s'est engagé avec de nombreuses bibliothèques en France pour préserver les fonds documentaires ukrainiens et aussi potentiellement pour les reproduire pour que du coup même si des exemplaires avaient été détruits en Ukraine, pour qu'ils puissent être sauvegardés ici en France et qu'ils puissent être reproduits après la guerre parce qu'effectivement vous l'avez dit, la culture et c'est aussi en ça qu'on considère chez BSF que c'est essentiel et que c'est vraiment fondamental de le préserver, c'est que bien sûr ça vient après la survie physique, ça vient après la santé, ça vient après le logement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on survit et qu'on commence à préparer la suite ? C'est quand on arrive à préserver la culture et notamment la langue.
Merci Ambre Cerny, on va continuer cette discussion. Mais avant ça, une petite interlude musicale. On s'écoute Lovesick Lullaby de Youngblood. We'll be right back.
shit when I wake up. Takes about 2 hours for me to come around. I'm not going for a breakup, but it feels like that today somehow. So let's keep it professional. I've got things in my mind that my mind don't like. You look nice on the outside. Do you wanna come out tonight? Cause for me instead, I always pick the wrong people that make me feel like I'm sick in the head. So then I go on a daydream where I know that I'm wrong, but it makes me right. You look cool this morning, do you wanna go out tonight?
C'était Love Sick Lullaby de Youngblood.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et on continue notre conversation avec Ambre Cerny, directrice régionale de France et des programmes européens de l'ONG Bibliothèque Sans Frontières.
Alors depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022, plus de 50 000 personnes ont bénéficié de vos actions, mais aujourd'hui le conflit s'inscrit dans la durée. Et comment est-ce que Bibliothèque Sans Frontières a adapté ses réponses vis-à-vis justement de ce conflit qui s'installe vraiment dans la durée malheureusement ?
Eh bien, on a évolué, ce qu'on disait tout à l'heure, on a évolué avec l'évolution de la situation et avec les besoins sur le terrain. Au début, on était vraiment avec des bibliothèques d'urgence, les Ideas Box, qui étaient installées là où étaient les réfugiés, là où étaient les personnes qui se déplaçaient, et vraiment dans une logique d'accompagnement psychosocial. Et c'était vraiment comment est-ce qu'on crée des safe spaces et des espaces de répit pour les gens qui étaient tourmentés par les déplacements de population. Et de plus en plus, cette question de l'accès à l'éducation a pris plus de place parce qu'il a fallu structurer aussi du coup l'offre éducative qu'on pouvait apporter à travers nos bibliothèques, puisqu'on le disait, au bout de 4 ans sans école, ou en tout cas avec une école en pointillé, c'était extrêmement important pour nous de pouvoir apporter des contenus et puis pouvoir outiller les professeurs pour faire face à cette situation qui s'enlise d'une certaine manière. Et nous, on a également l'équipe de Bibliothèques Sans Frontières sur le terrain, que je salue si elles écoutent cette interview. Elles étaient au départ vraiment plus à l'arrière, entre guillemets, elles étaient dans l'ouest, à Lviv. Et puis ensuite, on a nous-mêmes appris à agir et à déployer nos actions de manière concrète dans une zone aussi de guerre et une zone qui évoluait. Et 4 ans plus tard, on est beaucoup plus proche de la zone de front dans l'est, notamment à Kharkiv et à Donetsk, grâce à nos partenaires qui sont sur place. Et on a installé notre bureau à Kiev, qui est la capitale, et là où vraiment se jouent beaucoup plus les partenariats, et là aussi où on peut beaucoup plus être en prise avec les grands enjeux. Donc nous-mêmes, on a grandi d'une certaine manière et on s'est adapté à cette situation, comme on a adapté nos projets aux besoins qui évoluent.
Et au-delà justement des enjeux très, très importants, évidemment, d'éducation et d'enseignement, la mission de BSF se cristallise aussi sur l'idée du soutien psychosocial, d'apporter un soutien psychosocial aux individus, à recréer aussi un sentiment de normalité dans un contexte qui a évidemment rien de normal. Est-ce que vous pouvez préciser le projet Libraries for Emotion qui est développé justement par Bibliothèques sans frontières, qui je crois justement vise à aider les victimes de guerre à surmonter leur traumatisme dans le cadre de la littérature?
Tout à fait. Alors c'est un projet qu'on mène avec un consortium européen d'acteurs, donc on déploie en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays aux alentours en Europe. Et vraiment, c'est un projet qui est basé sur l'idée de la bibliothérapie. Donc on mentionnait l'art-thérapie, mais la bibliothérapie en fait partie. Et c'est cette question de comment est-ce qu'on utilise les livres, à la fois pour se connecter à ses émotions, quand on sait qu'un stress très fort, un stress post-traumatique, il brise un peu ce lien qu'on a avec ses émotions. Et c'est la première étape déjà pour espérer guérir, et en tout cas c'est déjà de se connecter avec ses émotions. Et puis ensuite, on le sait, quand on lit un livre, ça favorise l'empathie, ça permet de prendre aussi du recul sur des situations à travers des personnages, notamment avec les enfants, ça marche beaucoup pour essayer de personnifier par exemple des émotions, des peurs ou des craintes, et ensuite de les exprimer. Et c'est toutes ces petites étapes, tout ce petit cheminement dans l'accompagnement psychologique qu'on peut faire à travers des livres, à travers des personnages, à travers la fiction, et qui permettent, on l'espère, de poser les jalons d'une récupération, ou en tout cas espérons-le, du retour à une vie normale pour ces enfants, mais aussi pour leur famille.
Et est-ce que les bienfaits de cette bibliothérapie, ils s'observent également lorsqu'on est en situation de illitératie, de ne pas être lettré? Je pense aux enfants, je pense peut-être à des personnes qui sont analphabètes. Est-ce que ce média-là arrive quand même à passer?
Alors évidemment, on a beaucoup de livres qui sont, alors on appelle ça des livres silencieux, alors non pas parce que des livres peuvent être bruyants, encore que ça existe, mais en tout cas c'est des livres avec beaucoup d'images. On utilise aussi beaucoup des livres d'art, puisque du coup des livres avec des belles images, des tableaux ou même des documentaires permettent en fait de susciter des émotions, même sans passer par la lecture vraiment des mots. Et la sélection de livres qu'on a faite et qu'on a envoyé notamment en Ukraine comportait beaucoup de livres silencieux et de documentaires aussi dans cette optique-là. Et aussi parce que au moment où la guerre s'est déclenchée, nous n'avions pas énormément de livres en réserve qui étaient en ukrainien. On a constitué ce fonds au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'au départ, on a beaucoup utilisé des livres dits silencieux.
Alors justement, Farah, tu l'as dit en préambule, 6 millions de réfugiés ukrainiens sont actuellement en dehors de leur pays, soit 15% de la population ukrainienne. Les enfants sont quand même confrontés à des défis significatifs liés à l'intégration dans un système éducatif qui n'est pas leur, à l'apprentissage d'une nouvelle langue, à la reconstruction aussi d'un lien social. Qu'est-ce que fait BSF? Donc BSF intervient en Ukraine, mais est-ce que BSF intervient aussi dans les pays voisins de l'Ukraine pour justement accompagner la scolarisation des enfants réfugiés?
Tout à fait. Alors pendant les deux premières années du conflit, on était évidemment donc en Ukraine, mais aussi en Pologne et en Moldavie, qui sont les pays limitrophes. Là aussi, on avait déployé des bibliothèques Ideas Box, qui sont donc ces médiathèques en kit qui permettent de créer des petits espaces éducatifs. Et on intervenait à la fois dans les écoles de ces pays, mais aussi dans les centres d'accueil des personnes réfugiées, mais aussi dans les hôpitaux. Et on se servait encore une fois de ces bibliothèques pour accueillir les personnes. Ça permettait aux enfants parfois de s'occuper pendant que les parents avaient devant eux des tâches administratives très concrètes à mettre en place. Et puis ça permettait aussi aux enfants, notamment dans les écoles, d'accélérer leur apprentissage de la langue, puisqu'ils se retrouvaient projetés dans des écoles où ils ne maîtrisaient pas la langue, où ils connaissaient personne. Et grâce à ces Ideas Box qui sont un peu moins impressionnant peut-être que d'être dans une salle de classe où les choses sont très codifiées, et ça c'est le cas dans tous les pays, d'avoir cet espace qui est un peu plus ouvert, où encore une fois on peut passer par l'art aussi pour s'exprimer, et puis ça permet de créer du lien peut-être un peu plus facilement que dans des salles de classe. Les bibliothèques ont été très utiles dans ce cadre-là. Et je tiens à parler d'un projet, parce que qui était un projet vraiment très beau qu'on a fait en Pologne avec une fondation et un artiste, un photographe de renommée internationale qui s'appelle Rafał Milak. Et c'était un projet photo très beau. Je vous invite à regarder sur le site de Bibliothèques sans frontières, où ils ont donné des appareils photo aux enfants ukrainiens. Et ils ont photographié leur quotidien dans leur pays d'accueil, donc là en l'occurrence en Pologne. Ils ont dessiné par-dessus ce qui leur rappelait plaît, ou en tout cas ce qui leur manquait de l'Ukraine sur ces photos. Ils en ont fait une très belle exposition qui a été aussi montrée en France et dans d'autres pays en Europe. Et je sais par les témoignages qu'on a reçus de ce projet-là que les enfants qui y ont participé ont beaucoup progressé, justement, on en parlait de l'art-thérapie, dans la manière dont ils arrivent à exprimer ce qui leur manquait. Et c'est pas toujours quelque chose de facile à expliquer. Et grâce à ce travail de la photo et de dessin, c'est quelque chose qui a été très, très impactant. Et moi, c'est un projet qui m'a beaucoup, beaucoup impressionnée.
Vous parlez tout à l'heure de ce dispositif d'aller vers, qui est quand même de aller vers la population et non pas d'attendre que la population crée une école, par exemple, avec des horaires. Du coup, je me demandais, en termes de routine et de cadre, comment on crée un cadre qui est quand même aussi très structurant pour des enfants, d'autant plus, je pense, quand il y a des traumatismes et en temps de guerre, lorsque c'est un dispositif, justement, très mobile, très ouvert.
C'est un très bon point et c'est vrai que c'est quelque chose qui, effectivement, ça fait partie des besoins qui reviennent très souvent. C'est la question de la routine et comment est-ce qu'on crée cette espèce, ils appellent ça de la ligne de vie. Et donc, même si les dispositifs sont mobiles, en général, les partenaires font en sorte que, par exemple, tous les lundis, ce soit dans un endroit donné, qui crée des rendez-vous le mardi, c'est dans un autre endroit, etc. Et donc, même si c'est un dispositif mobile, il y a quand même des rendez-vous qui se créent pour que les gens puissent y revenir. Et on sait aussi que, notamment quand on parle de soutien psychosocial, eh bien la question de... Il faut apprivoiser aussi un petit peu l'outil, il faut apprivoiser aussi un peu les publics. Et la première fois, peut-être qu'ils viennent et qu'ils regardent. Et la deuxième fois, peut-être qu'ils rentrent et puis qu'ils ouvrent un livre. Et que la troisième fois, ils dessinent. Et peut-être que c'est qu'au moment de la quatrième fois que le personnel, les assistantes sociales qui sont là, par exemple, peuvent peut-être ouvrir un dialogue avec les gens. Donc cette question du lien est très importante. Et c'est aussi pour ça que cette question à l'éducation est très importante.
Très bien. Et comment finalement, à l'occasion de cet anniversaire, ce funeste anniversaire, quel message est-ce que vous souhaitez adresser au public français? Comment chacun peut-il soutenir l'action de Bibliothèques sans frontières en Ukraine et ailleurs dans le monde? Parce que je crois que vous intervenez dans plus d'une trentaine de pays.
Oui, tout à fait. Là, on a pris l'exemple de l'Ukraine et de l'Europe, mais ces activités et l'utilisation de ces bibliothèques pour permettre l'accès à la culture, à l'éducation et à l'information, on la déploie partout dans le monde. Une des manières très simples de nous aider pour les personnes qui sont en France, c'est de nous donner des livres. Chaque année, on collecte 1 million de livres en France qu'on réutilise ensuite de nos bibliothèques solidaires. On a notre très grande collecte qui commence à partir du 18 avril dans toute la France. Vous pouvez aller déposer n'importe quel livre dans les points de collecte que vous pourrez trouver sur le site internet de Bibliothèques sans frontières. Et ensuite, ces livres-là, on les classe, on les trie en fonction de la langue et vous l'avez compris, des besoins de chaque projet, on les envoie sur le terrain. S'ils ne sont pas adaptés aux besoins, on les revend sur le marché de l'occasion. Et ça nous permet nous-mêmes d'acheter des livres neufs, le plus souvent à des libraires locaux. Et ça nous permet comme ça de donner une seconde vie solidaire aux livres qui peut-être prennent la poussière sur vos étagères. Donc n'hésitez pas à nous en faire don.
Très bien.
Eh bien, je vous remercie. Merci à vous, Ambre Cerny.
Merci à vous.
Je le répète, directrice régionale France et programme européen de l'ONG Bibliothèques sans frontières, d'être venue partager l'émission de cette ONG avec nous. Et merci à toi, Félix, pour cette interview.
Merci beaucoup.
Et on continue. On retrouve Francesca pour le Flash Info.
Le Flash Info. Sorry. De la matinale.
J'ai voulu
de
pas
19h.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. À l'international, droit de douane, jusqu'où va-t-il aller Donald Trump? Après la décision de la Cour suprême invalidant l'usage d'une loi d'urgence pour imposer des droits de douane, Donald Trump a annoncé une nouvelle surtaxe de 15%. Cette fois, il s'applique sur une disposition distincte du Trade Act de 1974. Voilà qui remet de la tension entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. En France, inondation malgré une amorce de décrue. Encore 3 départements en vigilance orange, Loire-Atlantique, Finistère et le Morbihan. Selon Météo France, les précipitations ont été supérieures aux normales saisonnières. Les nappes sont déjà pleines, ce qui limite l'absorption de l'eau. Nous pensons bien sûr à tous les sinistrés. Salon international de l'agriculture, il a ouvert ses portes samedi 21 février à Paris, Porte de Versailles et se tient jusqu'au 1er mars. C'est à la fois une vitrine économique, un espace de dialogue et un baromètre social. sociale du monde rural. Au-delà des chiffres et des revendications, c'est aussi une belle occasion de se reconnecter à nos territoires. Sport, ciao Italia. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 se sont terminés hier, le 22 février. La délégation française a signé un record historique de 23 médailles, dont 8 en or, dépassant son précédent total dans les JO d'hiver. La France est 6e au classement des médailles par nation.
On enchaîne l'émission avec la chronique d'Abel. Mais avant ça, une petite pause musicale. On s'écoute Passenger Princess de Bailey.
I'm famished. I always eat in something lavish. When I walked in, I did some damage. Step on the next Marshall.
Salut Abel, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Mais oui. Qu'est-ce que nous a préparé aujourd'hui ? On t'écoute.
Alors déjà, bonsoir Radio Campus Paris. Ça me fait grandement plaisir d'être là. Et aujourd'hui, on parle d'actualité, on parle news, on parle info potin et comment éviter l'info du week-end, la manifestation des divers groupes d'ultra-nationalistes pour la mémoire de Quentin. Oui, comment éviter le sujet ? Et bah comme ça, JO d'hiver 2026, la Norvège finit grande première avec 41 médailles et 18 d'or. L'occasion pour tout le monde, en tout cas pour moi, de se rendre compte que le biathlon, c'est beaucoup trop stylé et que le curling, c'est de la pétanque pour Esquimaux. Si vous n'avez pas suivi, tant pis pour vous, vous n'êtes que les ennemis du sport, tout simplement. Côté Frenchie, 8 médailles d'or et méga SO pour le relais féminin et surtout Julia Simon qui nous a fait vibrer, donc Cocorico. C'est finalement un total de 23 médailles, record historique pour nos athlètes et pour la France, la place numéro 6. Le 6, 6 comme les Alpes-Maritimes, 6 personnes à qui je dois de l'argent, 6-7 aussi, oui, j'essaie d'être jeune dans mon époque. 6 Oscars pour Forrest Gump, la grosse foudre, la gnagna, la vie, les chocolats, on souffle. 6 affaires judiciaires sur les miches de Nico Sarko et 6 participants à la manif d'extrême droite ce week-end. Bam, regarde la transition de bâtard. Vous croyez que j'allais éviter le sujet ? Les fachos, vous êtes à chier. Bouh, 3200 personnes dans les rues. Après tout ce bordel, l'interminable minute de silence à l'Assemblée nationale et tout le raffut de la sphère politico-médiatique. Et oui, l'incroyable oxymore à réécouter en rediff demain à 13h. Mais plus sérieusement, les gars, la basique Virgin manif de gauche, c'est 50 000 personnes à Paris, 100 000 dans toute la France, d'après les autorités. 3200, c'est même pas le stand Aveyron Gourmand à la fête de l'Huma, mais c'est 1000 fois plus de visiteurs sur le stand du Parti Socialiste. 3200 hommes cagoulés qui aiment se raser un peu trop court et les svastikas en oblique. À 3200, ils remplissent pas à Bercy, c'est sûr, mais encore, ils remplissent même pas le Zénith, alors que même Bigard et Norman l'ont fait. et pas en semblant. On fait attention. Et j'ai une théorie d'ailleurs qui lierait les fans de Norman et ceux du Troisième Reich, mais ce sera peut-être pour une prochaine chronique. Malheureusement, 3200 personnes, ça paraît ridicule, mais c'est déjà 3200 personnes de trop qui ont alterné entre chants racistes et homophobes, saluts nazis et agressions des journalistes. Alors dans la région de Laurent Wauquiez, ça arrive souvent de croiser des embryons de nazis, et heureusement, la justice s'est saisie de l'affaire. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit de société, ou plutôt de notre époque. Samedi, un défilé d'hommes blancs cagoulés hurlant la haine dans les rues de la 3e ville de France. Et à Paris, tous les ans, le 9 mai, les militants de l'ultra-droite défilent en rang militaire sous la croix celte, torche à la main. Le bruit des bottes, ça se fait de plus en plus fort, alors que la lumière se ternit. Mais nous ne sommes pas muselés. Jamais le fascisme, jamais la haine, la pente est glissante. Aux insouciants, rendez-vous. Compte, il n'est pas trop tard. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.
Merci Abel pour ce coup de gueule avec un petit peu de lumière, ça fait plaisir. Et tout de suite, on retrouve notre interview culture avec Francesca qui interview Junior Larouille, membre du bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Bonsoir Junior Larouille.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes membre de l'association BAM, ça se dit comme ça, donc c'est Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Vous vous occupez du bureau de gestion ainsi que du pôle France langue étrangère, pôle LGBT et le pôle militantisme qui est tout nouveau. Le BAM a été créé en 2015, il aura donc 11 ans en novembre cette année. Pouvez-vous nous partager son histoire et le pourquoi il a été créé ?
Oui, bien sûr. Donc en fait, le BAM au départ, c'est un collectif. Donc en 2015, il y avait un lycée dans le 19e qui était occupé par 900 personnes immigrées d'origine afghane, iranienne. Enfin, il y avait différentes origines. Et ce lycée, il a été évacué par les forces de l'ordre et la mairie de Paris. Et donc en fait, il y avait un gros groupe de personnes qui avaient énormément besoin d'aide pour s'intégrer. Et donc le BAM est né de ce constat-là parce qu'ils avaient besoin d'apprendre le français, qui est vraiment la base de l'intégration, mais également de faire des démarches administratives parce que c'est pas facile. Les personnes immigrées, elles ont des droits, mais elles ne les connaissent pas. Et donc tout ça, il faut les accompagner. Et puis également, je peux parler des différents pôles qu'on a aujourd'hui, parce qu'en fait, c'était ça la base. Hein. Donc
bien
vraiment,
sûr.
L'intégration à travers le français. Donc on a un pôle qu'on appelle français langue étrangère. On a une quinzaine de salles de cours sur Paris. On propose 19 horaires pour des niveaux différents un peu partout dans Paris. On a un deuxième pôle qu'on appelle le pôle social, qui est un peu le cœur de l'association aussi, même si le pôle français, c'est le plus gros. Le pôle social, on va parler de toutes les questions d'asile, de titres de séjour et l'aide en administrative, comment se faire rembourser des titres de transport, des choses comme ça. On a un pôle dédié à l'asile des personnes LGBTQ+, parce que quand on fait une démarche d'asile, c'est parce qu'on est persécuté dans son pays, donc soit pour son orientation sexuelle, soit pour ses idées politiques, religieuses, sa minorité ethnique. Et donc en fait, il faut passer devant une commission de fonctionnaires de l'OFPRA, l'Office pour les Français de protection des réfugiés et des apatrides, et il faut raconter son discours. Et donc il faut imaginer que la plupart des migrations qui arrivent pour des régions LGBTQ+, c'est des gens d'Afrique, du Maghreb, d'Asie mineure, d'Asie centrale. Donc c'est des gens où l'homosexualité ou la transsexualité est un tabou. Et donc, en fait, la première fois qu'ils parlent de leur homosexualité, ils doivent en parler devant un fonctionnaire de l'État dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, nous, dans ce pôle-là, on essaye de les aider à préparer leur discours pour qu'ils puissent se livrer un peu et qu'ils aient le maximum de chances d'être reconnus à l'asile. On a un pôle asile qui est général. Et puis, on essaye de monter actuellement un pôle hébergement, voilà, qui est assez complexe, mais on a beaucoup, beaucoup de demandes. Et on a un pôle culture où on organise des rencontres pour essayer de faire sortir les gens un peu en dehors des démarches de base.
Justement, vous disiez tout à l'heure que les migrants, ils vont être composés de demandes d'asile, mais pas que. Alors déjà, combien sont-ils aujourd'hui? Je sais qu'en 2015, on parlait de 900. Combien est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Et de qui, justement, parle-t-on? Demandes d'asile, réfugiés politiques, mais encore?
Vous voulez dire combien sont-ils les immigrés de
tout en s'occupe aujourd'hui? Parce que ça fait depuis 11 ans, donc ouais. J'imagine que, enfin, j'imagine et malheureusement que en termes de nombre, ça s'accumule. Et aussi, de qui sont, on parle de migrants, mais qui sont? Ouais. Comment, de quoi
la typologie
composée, voilà, les profils.
Donc en fait, on compte pas chez d'accord. nous, donc je dirais des milliers à d'accord. l'année. On en a où on a du suivi. Ah oui, pardon, je suis un peu loin. Donc, on a les personnes qui viennent en salle de formation pour le français. Effectivement, on en a à peu près 500 en permanence répartis entre nos différents cours. La répartition, je dirais que c'est à peu près 2/3 d'hommes plutôt jeunes et 1/3 de femmes souvent avec enfants. Et puis au niveau des pays, c'est hyper varié. On a évidemment pas mal d'Afghans, on a pas mal de personnes d'Afrique noire, et ça va dépendre souvent des conflits. En ce moment, on a beaucoup de Soudanais qui arrivent, évidemment, par rapport à ce qui se passe là-bas. Et après, voilà, c'est très varié. On a des Pakistanais, on a des gens d'Amérique du Sud, et plus récemment, on a des Russes pour le côté LGBT, et on a même certains Américains qui frappent à notre porte, des transsexuels qui se sentent assez rejetés aussi. Donc le public, il est vraiment varié. Et donc voilà, on ne tient pas de compte. Et quelque chose que je n'ai pas dit, mais une de nos valeurs clés au BAM, qui n'est pas tenue par beaucoup d'associations, c'est qu'en fait, on a un accueil inconditionnel. Donc une personne, elle a des papiers, elle n'a pas de papiers, elle peut venir au BAM, on la recevra, on l'accueille en cours, et on est indépendant financièrement, c'est-à-dire qu'on ne sollicite pas enfin, on marche qu'avec des dons, de subventions, parce que les associations qui demandent des subventions, enfin, elles ont le droit et elles existent, et tant mieux qu'elles soient là, mais du coup, elles sont un peu prisonnières du politique. Par exemple, le fait que nous, on accueille des sans-papiers, si on avait des subventions, on devrait signer une charte qui fait qu'on ne pourrait pas le faire. Donc voilà.
Parlons directement du nerf de la guerre, ouais. L'argent. Vous parliez de nouveaux pôles qui s'ouvrent, notamment le pôle hébergement. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de fonds, et on vous le souhaite, ou pas, cette volonté d'augmenter le nombre de pôles ?
Non, on aimerait bien. Alors là, financièrement, c'est très difficile. Donc on fait régulièrement des campagnes de dons, parce qu'on marche uniquement sur le don. Et on ne sait pas si on va réussir à maintenir toute l'activité qu'on a aujourd'hui. Donc on essaye de se débrouiller, on essaye de négocier les prix, parce que ce qui nous coûte cher surtout, c'est les locations de salles pour donner les cours de français. C'est ça qui nous coûte le plus cher. Mais non, l'argent ça manque. Pourquoi on veut monter des nouveaux pôles? C'est parce qu'en fait il y a le besoin. C'est-à-dire qu'en fait on a de plus en plus de gens qui viennent avec de plus en plus de besoins, et c'est hyper dur de dire non à quelqu'un qui est dans la galère, quoi.
Et je rappelle, d'ailleurs, je vais rappeler que les donations, on peut les faire via le formulaire qui est sur votre site, où envoyer, enfin tous les éléments sont sur le site, hein, même l'envoi des chèques avec l'adresse. L'association, elle est composé de bénévoles à multiples profils. On peut trouver des juristes, des enseignants, des étudiants, journalistes. Et donc, avec la même volonté, évidemment, c'est d'accueillir dignement les personnes migrantes. Quelles sont les revendications ?
Oui, donc c'est assez important. On n'a que des bénévoles dans l'association. Mmh. On a à peu près 180 bénévoles, mais c'est vraiment important. Il y a zéro salarié, donc tous nos frais de dépenses, c'est directement. Les revendications, on en a pas mal. Nous, en fait, la revendication de base, c'est de pouvoir accueillir dignement les personnes immigrées. Et puis, ça va se décanter en différentes choses. Donc, on veut supprimer déjà auprès de l'OFPRA la liste des pays sûrs. Parce qu'un pays qui est dit sûr, l'asile, il est rejeté systématiquement, alors qu'en fait, c'est pas forcément sûr.
L'OFPRA, vous pouvez le préciser pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas.
Pardon, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ouais. Donc en fait, il y a deux façons d'intégrer la France. Soit on fait une demande d'asile, ça veut dire qu'on est persécuté dans son pays. Soit on fait une demande de titre de séjour parce qu'on fait regroupement familial ou pour le travail. Ouais. Et voilà, c'est les deux seules façons. Donc, suppression de la liste des pays sûrs pour l'Office des réfugiés et des apatrides. Amélioration des dispositifs d'asile. Aujourd'hui, c'est très, très nébulaire et c'est vraiment fait pour précariser les gens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous êtes un demandeur d'asile, vous allez quand même essayer de vous rapprocher des gens qui vous ressemblent. Souvent, vous avez un cousin, vous avez quelqu'un de votre village qui habite là. Et donc, vous allez aller dans la ville où il habite. Et vous faites votre demande d'asile. Et quand on reçoit votre demande d'asile, vous êtes convoqué à l'OFI, qui est un autre organisme. Et lui, il va vous dire, tu vas avoir un logement avec un petit chèque qui est à peu près 200 € par mois, qui est une indemnité, et ton logement, il va être à Quimper. Okay. Alors que toi, ta famille, tes amis, ils sont à Paris. Et si tu refuses le logement à Quimper, tu perds également ton indemnité de 200 €. Et donc c'est vraiment, vraiment mal foutu. Ou alors tu vas à Quimper, mais du coup tu connais personne et tu peux pas t'intégrer. Okay. Et donc tout ça, c'est des choses, c'est du détail, mais pour les personnes, ça leur gâche la vie en fait, et ça les met dans l'illégalité. Parce que souvent ils vont refuser cet accompagnement-là, et derrière ils vont travailler au noir, et puis ils vont sortir du pas classique. Donc nous, on veut vraiment simplifier tout ça. On souhaite également, parce qu'il faut le savoir, ces gens-là, ils ont cette petite tête qui est vraiment minime, mais ils n'ont pas le droit de travailler. Donc en fait, on leur dit, tu as 250 € si tu acceptes, 200-250 € si tu acceptes le logement, mais tu n'as pas le droit de travailler. Donc en fait, dès le début, on les met en condition pour qu'ils se précarisent. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on voudrait changer. Voilà.
Juste, alors, le gouvernement, dans cette situation, on parle d'inertie. Quels sont les blocages ?
Il y a des choses assez catastrophiques. Aujourd'hui, plusieurs personnes par jour viennent nous voir, mais enfin, des dizaines de personnes par jour, parce qu'en fait, ils ont perdu leur titre de séjour qu'ils avaient déjà. Les préfectures sont débordées. Et donc, en fait, les gens qui font des demandes de renouvellement... J'avais une dame l'autre jour en cours de français, 24 ans qu'elle est en France, elle a deux enfants qui sont français, elle était en CDI, elle faisait des ménages, et elle avait un titre pluriannuel, elle a fait la demande dans les temps, ça lui a pas été renouvelé, elle a perdu son emploi, et elle s'est retrouvée quasiment à la rue, hébergée par sa sœur. Et tout ça, c'est des délais administratifs, parce que le gouvernement, parce que c'est pas un sujet politiquement correct, ne veut pas mettre d'argent dans les préfectures, et ne veut pas non plus alléger la réglementation. Par exemple, on pourrait allonger les délais de renouvellement, et également, il y a une proposition de loi d'un sénateur PS, je crois, en ce moment, qui est discutée, d'automatiser. Aujourd'hui, c'est 98% des titres de séjour qui sont renouvelés. Pourquoi faire toute cette procédure où on est en retard ? Voilà. Ça, c'est de la volonté politique. Et clairement, ce gouvernement, il n'a pas cette volonté.
Et vous pourrez dire que ça s'est durci ces dernières années, justement, par rapport à ça, sur l'aspect demande de séjour, carte de séjour, mais aussi sur d'autres... Sur autre chose ?
Non, ça s'est durci. Alors, sur deux aspects, hein, sur les demandes de séjour, c'est clair que ça s'est durci. Toutes les règles ont été surévaluées. Donc, ça, c'est la procédure Retailleau. Donc, en fait, il y a des tests qui sont toujours plus compliqués. Les niveaux français demandés pour avoir un titre sont toujours plus compliqués. Au niveau de la répression policière, c'est ce qu'on voit aussi. Hein. Donc, il y a différents. On est en contact avec d'autres associations là-dessus. Mais bon, là, je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail. Mais en tout cas, la répression policière est de pire en pire. Et bon, c'est un ensemble de ce gouvernement, enfin en tout cas il n'est pas là pour nous, hein. Ça c'est sûr.
Est-ce que vous pourriez dire, c'est aussi quelque chose que je partage, y a-t-il justement une idée reçue des migrants qu'on a en France?
Moi, j'entends parfois des gens qui disent les personnes immigrées, ils touchent beaucoup d'aide et ils sont là juste pour les aides. Bon, mais je ne pense pas qu'autour de cette table, il y ait des gens qui le pensent. Mais en tout cas, on l'entend quand même beaucoup et beaucoup dans les mots des partisans de l'extrême droite. Et en fait, mais c'est tout l'inverse. Moi, tous les gens que je rencontre toute la journée, ils ont qu'un mot à la bouche. Comment je fais pour trouver du travail? Comment je fais pour travailler? Comment j'améliore mon français? Comment je me mets en règle? C'est ça qu'ils veulent, en fait, tous. Et on leur met bâton dans les roues. Et après, on vient nous dire, les gens ne veulent pas travailler. Mais c'est pas vrai.
On parle évidemment, je vous rejoins absolument, on parle de politique, c'est vrai, mais derrière on a, c'est des vies, hein, c'est des parcours humains. Est-ce que vous pouvez nous faire savoir, je pense que c'est important, les conséquences de ça, psychologiques, morales, quand on voit une mère de famille qui perd son emploi, qui se met dans la précarité alors qu'il y a un CDI, donc j'imagine qu'il y a quand même un accompagnement là-dessus. Quelles sont les conséquences justement ?
Le taux, alors je le connais pas exactement, mais le taux de maladie psychologique chez les personnes migrantes, il est énorme, parce qu'en fait on est vraiment dans des populations qui sont administrativement secouées, battues. En fait, ce qui se passe pour eux administrativement, c'est vraiment la galère. On leur demande d'aller faire la queue à la préfecture à 4h du mat, ils sont même pas sûrs d'avoir leur rendez-vous. On retire les gens. Enfin, maintenant, quand on dépense un dossier, donc il y a un logiciel horrible qui s'appelle l'ANEF sur le site de la préfecture, en fait on a même plus la possibilité de parler à quelqu'un. On peut même plus rencontrer quelqu'un dans un guichet, il n'y a pas un numéro de téléphone, il y a un email où personne ne répond. Et moi, tout ça, je trouve que c'est de la brutalité administrative. Et vraiment, les gens que nous, on voit tous les jours dans la cour de français ou aux permanences sociales, aux permanences LGBT, etc., mais ils vont pas bien. Ils vont vraiment pas bien. Et comme ils sont pas encore dans le... On dit souvent, et il y a d'autres préconçus comme ça, on dit souvent ils ont la santé gratuite, ils ont la CMU, etc. Mais en fait, le parcours du combattant, la semaine dernière, j'avais une transsexuelle russe qui est en pleine dépression, qui a un syndrome d'autisme, qui a eu son asile accepté, qui du coup se retrouve à la rue. En fait, on lui a accepté son asile, mais elle se retrouve à... Il n'y a rien qui peut la prendre en charge aujourd'hui à part des associations. Et en fait, c'est catastrophique. Et cette personne-là, je ne sais même pas comment elle va faire pour ne pas finir à la rue d'ici 2, 3, 4 semaines. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a rien pour elle. Et voilà, c'est tout. Personne n'est là pour l'aider.
Et pour une personne qui côtoie justement une personne en situation d'exil, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à recommander ? Enfin, évidemment, vous orientez vers vous, ça pourrait être une bonne pratique. Mais est-ce qu'il y a d'autres ? Qu'est-ce qu'on fait quand on sent que quelqu'un est en situation de vulnérabilité, de fragilité ? Vers qui on l'oriente ? Comment on s'y prend ?
Oui, bah alors ça va vraiment dépendre de la situation. Est-ce que c'est un titre de séjour? Est-ce que la personne n'a pas de papier? Est-ce que la personne elle est en demande d'asile? Faut l'orienter vers les associations. Les associations savent comment gérer ça.
Est-ce que vous auriez des noms quand vous dites les associations?
Bah donc nous le BAM, oui, mais il y a Utopia 56. Bon, il y a les Secours Populaires, Secours Catholiques. Il y a la CIMAD pour tout ce qui est juridique. Il y a un réseau d'associations qui est très 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 large. Donc le but c'est d'en trouver une et puis elle va savoir réorienter vers les autres associations qui vont bien au bon moment. Mais c'est très important parce qu'en plus, il y a beaucoup d'histoires dans cette brutalité administrative, il y a beaucoup d'histoires de délais. Et donc, en fait, des fois, il faut aller très, très vite. Et si on rate le délai, derrière, on n'a pas de plan, on n'a pas de seconde chance. Et il faut vraiment le savoir. Si j'ai un rendez-vous avec l'OFPRA, je le rate, c'est fini, ma procédure, elle est arrêtée. Et donc, en fait, les délais sont vraiment importants. Donc, contacter une association au plus tôt, alors le BAM, mais n'importe laquelle, de toute façon, on est tous débordés. Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire.
Je sais que vous recrutez aussi des bénévoles. Donc, comment on peut vous soutenir et quels sont vos besoins en profil de bénévoles? Je sais que vous cherchez pour accompagner pour les langues, par exemple. Dites-nous comment on peut vous soutenir et qui vous recherchez.
Alors, si vous avez quelques heures par semaine, ben c'est génial. Des étudiants, on les accepte parce que je pense que c'est plutôt votre cœur de cible, mais on accepte tout le monde, des étudiants, des retraités, des gens qui travaillent. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances juridiques ou des connaissances sur le droit d'asile parce qu'on forme les bénévoles en interne. En ce moment, on a quand même un gros manque sur le pôle LGBT parce qu'il faut savoir qu'on met uniquement des bénévoles qui sont de la communauté LGBT pour que les gens qui viennent poser des questions se sentent rassurés parce que c'est pas évident déjà. Donc, on a un manque là-dessus et puis on a beaucoup, beaucoup de besoins, les gens qui font la queue pour nous parler. Également, on a toujours du besoin sur les pôles français. Nous, on rêve toujours de mettre plus de classes parce qu'on aura toujours plus de demandes. Donc voilà, on prend n'importe quelle candidature. Tant que les gens partagent nos idées, on fait signer une charte et qu'ils se reconnaissent dans nos valeurs.
Merci beaucoup, Junior. Je rappelle que l'association n'a pas de subvention et fonctionne uniquement grâce aux dons. Et le formulaire est disponible sur le site de bamasso.org/fr/bamfr.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Junior Larouille d'avoir été avec nous au micro de Francesca. Et tout de suite, une petite pause musicale avec Bébé de Shy Girl.
I'm the speech and I win everything.
revoici sur Radio Campus Paris au 93.9 FM. On retrouve Fabien qui nous fait une petite... Nous revoici et qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Mais oui, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? On vient d'écouter Bébé de Shy Girl, mais pardon !
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et on retrouve Fabien pour une petite balade culturelle parisienne.
Oui, bonjour. Ah, ce genre d'incident, ça me plaît beaucoup à la radio.
C'est cadeau.
Tant que c'est pas moi.
C'est cadeau.
Et donc, oui, on commence tout de suite avec le Nouvel An chinois. Le plus grand défilé du Nouvel An chinois de Paris, c'est celui du 13e arrondissement. Et il fait son retour dimanche 1er mars 2026. Ce défilé, c'est le rendez-vous festif, coloré, le plus attendu de la capitale pour célébrer le Nouvel An lunaire. Et cette année, on entre dans l'année du cheval de feu. L'ambiance est unique, danse du dragon et des lions, défilé de personnages féeriques, costumes traditionnels, chars colorés et banderoles éblouissantes envahissent les rues du quartier asiatique. C'est un vrai voyage sans quitter Paris. L'année 2026 annonce l'arrivée du cheval, septième signe du zodiaque chinois. Animal noble et puissant, le cheval est associé à l'énergie, à la liberté et au mouvement. Dans la culture chinoise, il incarne la vitalité, l'élan créatif, et la capacité à franchir les obstacles avec courage et détermination. Le cheval est aussi un symbole de loyauté et de générosité. Sa force et sa rapidité en font un compagnon précieux dans les récits mythologiques, où il représente l'endurance et la quête de nouveaux horizons. Le signe du cheval est dynamique, enthousiaste et audacieux, avec une nature chaleureuse et sociable. En entrant dans l'année du cheval de feu, on accueille une période placée sous le signe de l'élan vital, de la créativité et de l'audace. Le grand défilé se tient le dimanche 1er mars de 14 à 17 heures et c'est bien entendu gratuit. Et pour assister au départ, c'est au 44 avenue d'Evry. Et puis, vous venez découvrir l'exposition « Voir la mer » qui est présentée au Maïf Social Club jusqu'au 25 juillet 2026. L'exposition du Maïf Social Club aborde ainsi différentes thématiques en lien avec l'océan, le climat et l'environnement, et ainsi que la politique. Au gré des œuvres, on passe d'une balade magique au milieu de la flore et de la faune marine à un océan de déchets plastiques, en passant par des exploitations de pêche et des monstres aquatiques fantasmagoriques. Chaque artiste trouve une inspiration différente face à cette immensité océanique. On admire par exemple des créatures hybrides venues des profondeurs sombres des océans, une installation textile qui montre toutes les couleurs que peuvent prendre l'eau et le sable, des paysages de bord de mer en transition, des installations représentant les abus de la pêche industrielle, etc. Cette exposition réunit des œuvres originales, parfois amusantes, parfois poétiques, parfois horrifiques. Certaines créations peuvent sembler ironiques. Avec humour, les artistes dénoncent la destruction de ces écosystèmes marins et des sociétés qui vivent de ces océans. Chacun à sa manière, les artistes du Maïf Social Club veulent montrer la beauté fragile de ces océans, les conséquences de nos modes de vie et la nécessité de modifier nos manières de faire pour redonner vie à ces écosystèmes uniques. Une exposition engagée à découvrir gratuitement. Le Maïf Social Club, c'est au 37 rue de Turenne, dans le 3e arrondissement. Le métro, c'est la ligne 1, c'est Saint-Paul, et c'est gratuit. Et pour plus d'informations, c'est maïfsocialclub.fr.
Bien, ne nous spoil pas trop quand même non plus. Merci pour cette balade culturelle, Fabien. C'est toujours un plaisir. Eh bien, la matinale de 19h se finit ici. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci à nos invités du soir, Ambre Cerny et Junior Larouille. Merci à mes complices, Félix, Francesca, Abel, Fabien, qui est avec moi à la rédaction. Merci à Joe, oui, à Joey, à la réalisation de cette émission. Merci à Sarah et Iske, nouvellement bénévoles sur Radio Campus, qui sont venus observer et vous allez les découvrir très prochainement, j'en suis sûre. Merci à Aude et Jeanne, nos fabuleuses coordinatrices, sans lesquelles cette émission ne pourrait pas exister. Je vous dis à demain sur le 93.9 FM pour une nouvelle matinale de 19h. La soirée continue sur Radio Campus Paris et tout de suite, l'émission Il se passe quelque chose. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. We'll be right back.
Radio Campus Paris. Il est 20h.
Le lobby, c'est le rendez-vous LGBTI+ de Radio Campus Paris.
On se retrouve aussi beaucoup dans des lieux